7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
On l'a appris, cette nuit, le Brésil rejette l'aide du G7 pour combattre les incendies en Amazonie. Le pays du G7 avait proposé plusieurs mesures refusées par Brasilia qui conseille à Emmanuel Macron, je cite, de s'occuper de ses colonies. Pour en parler, nous sommes en compagnie tout d'abord de Philippe Grandcola. Bonjour, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes directeur du laboratoire Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité au Muséum d'Histoire naturelle. En face de vous, Judith Rochefeld, bonjour. Vous êtes professeur de droit privé à l'école de droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous avez notamment publié « Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne » publié aux éditions Odile Jacob. Judith Rochefeld, il y a aujourd'hui, face à cet émoi suscité par l'incendie de la forêt amazonienne, une idée qui revient au devant de la scène. Et cette idée consiste à considérer que la forêt, d'autres lieux sur Terre, constituerait un bien commun. Vous en êtes spécialiste de ces biens communs. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est justement un bien commun ?
Alors, dans une approche tout à fait, je dirais, générale, la plus large qui soit, ce serait des ressources ou des milieux, des entités naturelles à qui on attribue un intérêt commun. Donc l'Amazonie, dont on parle beaucoup actuellement, ne serait-ce que pour son aspect climatique ou de biodiversité, on sent bien qu'elle est chargée, ne serait-ce que dans notre imaginaire et dans la réalité, d'un intérêt commun. Et en général, la communauté qui va avec cette description, c'est l'humanité. Et par exemple, pour le système climatique, rattaché à la défense de l'Amazonie actuellement, c'est cette préoccupation de l'humanité qui a surgi dans les années 90, dans les textes, pour précisément marquer l'intérêt d'une humanité, qui était une entité aussi abstraite, à la préservation du système climatique et à la préservation des entités naturelles qui permettent la stabilité du système climatique. C'était cette idée d'une communauté de risque, hein, telle qu'a pu théoriser Ulrich Beck, une sorte Ulrich de...
Il faut présenter...
Oui, c'est un intellectuel allemand qui avait, quant à lui, théorisé la société du risque, l'idée que ce qu'on avait à partager actuellement était davantage des risques. Et que dans sa description, il y aurait constitution, cristallisation d'une communauté parce que on a un risque à affronter ensemble. Et pour le climat, d'ailleurs, il parlait encore davantage d'un momentum cosmopolitain, c'est-à-dire l'idée que parce qu'on a ce risque existentiel à affronter ensemble, on allait créer communauté et imposer ou défendre un intérêt commun. Le problème, et on le voit très bien dans l'Amazonie, on le voit très très bien dans les réactions du président brésilien, c'est que l'articulation qui émane des années 90 de ces traités, c'est une articulation entre vocation de certaines entités ou de certaines ressources ou systèmes à l'humanité et souveraineté des pays sur les territoires desquels il y a ces entités naturelles.
C'est ce que dit Jair Bolsonaro. Il dit qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à empêcher l'incendie de Notre-Dame et qu'il devrait plutôt s'occuper de Notre-Dame alors que l'Amazonie est brésilienne et entend le rester.
Tout à fait. Et puis, on ajoute en général... Ce qui a fait marquer un certain échec de cette articulation, puisque cette articulation devait donner lieu à une gouvernance par les États de certaines entités ou systèmes comme le système climatique, ce qui a fait échec, c'est que les intérêts n'étaient pas communs du point de vue du développement économique. Et là, de même, dans les remarques du président brésilien, on a cette idée que les pays du Nord, ou historiquement en dette écologique par rapport à ceux du Sud qui n'auraient pas pu se développer, n'ont rien à dire sur le développement économique. Alors le Brésil est un peu particulier évidemment, mais n'auraient pas de leçons à donner. Ils ont eu leur période de développement économique, ils ont exploité les ressources, quelles qu'elles soient, naturelles, et les entités naturelles, et n'auraient pas de leçons à donner actuellement aux pays qui souhaitent avoir un développement économique.
Judith Rochefeld, a-t-on des exemples de biens communs institués, la notion qui est aujourd'hui défendue par de nombreux intellectuels, des juristes, a-t-elle eu une concrétisation effective ?
Alors, ce que l'on voit, donc là, on a ce constat d'échec, hein, de l'idée d'un bien commun qui se serait imposé pour l'humanité. Ce que l'on voit actuellement, c'est une sorte de défense dans chacun des États, notamment pour le climat, ça se voit beaucoup, une sorte de reterritorialisation, de relocalisation de la défense de ces bien commun, c'est-à-dire, et je donne un exemple qui est amazonien, c'est-à-dire par exemple pour la Colombie, on a eu devant la Cour de justice, dans la Cour suprême de Colombie le 5 avril 2018, 25 jeunes qui ont obtenu que la partie de l'Amazonie colombienne soit traité comme une personne et que en conséquence on arrête la déforestation. Et ce qui est intéressant dans l'exemple colombien, c'est que en outre la décision renvoie à une organisation territoriale, à des plans, un plan national et des plans de municipalités qui sont intéressés par les territoires en question, plus un plan intergénérationnel. Alors pour l'instant, c'est un échec, mais c'est un exemple dans les faits, dans la mise en pratique, mais c'est un exemple d'une société civile, de jeunes, qui stoppe une déforestation et renvoie à une organisation de la protection du territoire. Et là, on est en plus dans un véritable commun, c'est-à-dire une possibilité de commun, c'est-à-dire en plus de cet intérêt commun, une organisation collective de protection de ce commun. Alors, ce qui ajoute l'idée des communs.
Ça, c'est sur le plan juridique. Sur le plan scientifique, Philippe Grand-Colla, depuis que ces incendies ont débuté, on a entendu beaucoup de choses sur la manière dont la forêt amazonienne était essentielle pour la totalité de la planète. Vous qui êtes directeur de recherche au CNRS, vous dirigez un laboratoire où l'on étudie la biodiversité au Muséum d'Histoire Naturelle. Qu'en pensez-vous ?
Alors effectivement, l'Amazonie, c'est un peu une métaphore de la biodiversité. C'est présent dans tous les esprits, à juste titre d'ailleurs, puisqu'il s'agit pratiquement du plus grand massif forestier tropical dans le monde. 5 millions de kilomètres carrés, plus de 5 millions de kilomètres carrés sur 9 États, dont 60% au Brésil. Une quantité d'organismes incroyable. Et puis, ça fait partie de ce qu'on appelle un système écologique, un écosystème, c'est-à-dire un ensemble intégré dans lequel il y a le sol, l'atmosphère, les espèces vivantes, l'espèce humaine aussi, naturellement. Et ce système, on le voit, on le touche du doigt là avec ces incendies actuellement. Il nous montre la fragilité du milieu naturel quand il est affecté par l'action humaine. Il nous montre aussi que l'homme est fortement dépendant du système naturel. Alors l'Amazonie, c'est 10% d'eau, de l'eau douce sur la planète. C'est 40 000 espèces de plantes, 16 000 espèces d'arbres. C'est un milieu extraordinaire. Très vaste, très divers malgré tout. C'est également un milieu dans lequel il y a une diversité de climats, de sols que l'on n'imagine pas. Et c'est un milieu évidemment qui représente pour l'État brésilien à la fois une ressource et un patrimoine. Alors un patrimoine effectivement qu'on peut penser commun.
On va revenir sur cette diversité, Philippe Grand-Colla, mais lorsque l'on entend dire par exemple que l'Amazonie c'est 20% de l'oxygène que nous respirons, c'est vrai, c'est faux ?
Alors c'est vrai que la métaphore est un peu excessive. En l'occurrence, c'est vrai que l'Amazonie, malgré tout, est un énorme système forestier dans lequel il y a effectivement une production d'oxygène, mais qui ne représente pas pour autant le poumon de la Terre, qui représente une contribution importante au stockage de carbone, une contribution importante à la régulation climatique locale.
Comment ça marche, une forêt, du point de vue de la consommation ? Parce qu'une forêt, ça consomme, je crois, de l'oxygène aussi.
Alors une forêt, ça consomme de l'oxygène, ça stocke du carbone. C'est quelque chose qui fonctionne de manière relativement stable tant que ce n'est pas trop perturbé en lien avec le sol, en lien avec les différents organismes qui sont à l'intérieur. Le plus grand danger pour l'Amazonie, c'est de rentrer dans une spirale infernale que les biologistes craignent actuellement, où on va vers une modification du climat au niveau global terrestre. Avec des actions de déforestation locale, on peut rentrer dans une spirale où la majeure partie de l'Amazonie d'ici 2050 serait réduite à l'état de pâture ou de système ouvert, et où ça mettrait en danger le restant des surfaces forestières qui seraient qui ne serait plus capable de se maintenir dans un climat qui deviendrait beaucoup plus sec.
Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est la déforestation pour utiliser la surface gigantesque de l'Amazonie à d'autres usages. Alors, par exemple, l'élevage, mais pas seulement. Quel est le lien d'ailleurs entre cette déforestation et les incendies ?
Alors effectivement, le gros souci, c'est que chaque année, il y a à peu près 20 000 km² de forêt amazonienne qui disparaît. Il y a des variations dans ce rythme de disparition en fonction notamment des mesures qui avaient été prises par des systèmes de surveillance au Brésil, l'Institut national des systèmes spatiaux, qui fait des observations en temps réel et chaque année qui fait un bilan sur la déforestation. Malheureusement, effectivement, il y a malgré tout des activités très importantes, des millions de têtes de bétail, des cultures de soja, des cultures de canne à sucre. Et l'ensemble de ces cultures amène à avoir des espaces modifiés dans lesquels il y a également des cultures vivrières, dans lesquels un certain nombre d'activités humaines vont provoquer naturellement des incendies, surtout en fin de saison sèche. Et donc, ces incendies, en fait, sont classiquement liés à l'utilisation du milieu. Et ce qui frappe, évidemment, c'est leur ampleur dans le cadre d'un climat qui va vers plus vers une température plus haute et vers des effets plus importants de la sécheresse.
Judith Rochefeld, alors on le voit, on a affaire à des propriétaires qui vont utiliser donc leur parcelle de forêt pour tel ou tel usage. Les biens communs sont aujourd'hui, semble-t-il, assez éloignés de la volonté à la fois du gouvernement brésilien et de ses propriétaires. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Parce que finalement, on se dit que la propriété privée est aussi une manière de protéger les biens.
Alors les biens communs, plus exactement, donc les communs dans une version plus étroite, c'est-à-dire si j'ajoute ce système de ressources ou des ressources, des droits distribués, une gouvernance collective, une action collective.
Des droits distribués, il va falloir nous donner quelques définitions.
Donc l'idée que on n'aurait pas précisément un propriétaire privé unique, mais qu'on pourrait distribuer différents usages de ces biens pour une communauté et une organisation, ça effectivement remet en cause une idée de propriété avec un propriétaire individuel. Mais ce qu'on peut faire, ce que montrent là d'autres réflexions et procès et actions de citoyens en cours, c'est par exemple de remettre en question des autorisations d'une activité polluante. Ou de remettre, donc je parle par exemple de procès qui ont lieu au Royaume-Uni ou qui ont eu lieu en Autriche pour une autorisation donnée à l'extension d'un aéroport. ISO, par exemple. Donc là, on a des possibilités, puisque maintenant les actions se passent dans chacun des pays, on a des possibilités de remettre en question l'autorisation d'activités qui sont contre la préservation d'entités naturelles ou de ressources naturelles. Ça, c'est une possibilité. Par ailleurs, effectivement, il faut peut-être s'habituer à l'idée que certaines ressources naturelles, entités naturelles, voire personne naturelle, puisque dans certains pays c'est désormais comme ça qu'on va parler, en Nouvelle-Zélande ou en Colombie, seront en dehors de la propriété ou d'une propriété telle qu'on l'a conçue actuellement, c'est-à-dire sans droit de regard ou sans prise en considération de leur vocation à être préservée pour tous.
Et ça, c'est peut-être un peu compliqué juridiquement aujourd'hui à établir, alors que il y a d'autres expériences qui sont tentées aujourd'hui en France, où un certain nombre de personnes, par exemple, se liguent pour acheter un terrain, le rendre clos et laisser des espèces proliférer. C'est par exemple le cas dans la Drôme. Est-ce que ça n'est pas une solution effective plus réaliste que celle des biens communs?
Alors, il y a toujours eu, dans l'idée de bien commun ou de commun, il y a toujours eu un balancement entre est-ce que la propriété privée n'est pas plus efficace, fondée sur l'intérêt du propriétaire pour assurer une préservation à long terme, ou est-ce que ça n'est pas l'État qui est le mieux placé pour réguler. Il y a toujours eu cette discussion. Les différents modèles ne sont peut-être pas exclusifs. mais il est vrai que sur des entités ou des ressources qui sont déterminantes pour tous, l'idée qu'on puisse être un propriétaire privé sans se préoccuper du tout de la vocation de tous est mise à mal.
Et par ailleurs, l'autre aspect, Philippe Grand-Colla, sur la forêt amazonienne, c'est qu'il y a donc bien évidemment une volonté du gouvernement brésilien d'avoir une souveraineté nationale sur cette forêt. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui y habitent. Il y a 600 ethnies à l'intérieur de cette forêt. Et du coup, on peut imaginer qu'il y ait beaucoup d'obstacles à ce que ça devienne une sorte de lieu international apporté à l'humanité pour son bien-être ou sa survie.
Oui, tout à fait. C'est le problème des milieux naturels d'une manière générale dans le monde. Hein. C'est que en fait, ils font partie de notre environnement, donc on peut pas les rêver intacts, vierges, indépendants de toute influence humaine. L'Amazonie a été peuplée avant l'arrivée des Occidentaux par une dizaine de millions d'Amérindiens. Aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de personnes qui résident dans l'Amazonie. Il y a beaucoup d'enjeux aussi également pour le gouvernement brésilien. Dans les années 70, il y a des voies de communication qui ont été construites parce que le Brésil devait s'approprier cet espace vierge qui faisait l'objet de beaucoup de convoitises. Naturellement, ces voies de communication, les fameuses trans-amazoniennes, etc., ont généré une utilisation du milieu qui était franchement différente. On est effectivement dans un système écologique dans lequel il y a beaucoup d'intervenants, dans lequel les équilibres sont mouvants, hein, parce que le climat, encore une fois, évolue au niveau global et donc il va précipiter un certain nombre d'évolutions. Donc on se doit d'intervenir toujours avec précaution sur ce type de système. Aujourd'hui, ce qui est clair, en fait, c'est que les annonces de libéralisation sur l'utilisation du milieu naturel ont un effet désastreux. Hein. Ça enlève un certain nombre de verrous qui avaient été posés au cours des années passées, dans lesquels qui aidaient en fait les utilisateurs des milieux à avoir une attitude beaucoup plus raisonnable sur la gestion de milieux naturels. Aujourd'hui, dans une situation finalement où on est un peu décomplexé, on peut brûler, on peut dévasté avec un peu plus d'impunité. Hein, on l'a vu, un des responsables brésiliens du système d'information spatiale a même été limogé quand il a alerté sur l'état des lieux d'une manière scientifique. Donc on est effectivement dans un système naturel dont les équilibres sont bouleversés, sont menacés, et pour lesquels il devrait y avoir une volonté commune, hein, au titre de la valeur intrinsèque de la biodiversité, mais aussi au titre de sa valeur de service, de sa valeur d'option pour le futur de conservation.
Les choses ont empiré parce qu'on entend dire aussi qu'il est traditionnel dans les forêts qu'il y ait des incendies, alors qu'il s'agisse de brûlis ou bien d'autres phénomènes parfois naturels. Qu'en est-il réellement, Philippe Grand-Colla ?
Alors c'est vrai que dans les milieux naturels, d'une manière générale dans le monde, il y a des pratiques agricoles, des pratiques de gestion du milieu qui passent par le feu. Quand ces pratiques se passent dans un environnement qui est relativement stable, avec un climat qui est adéquat, il peut y avoir des dommages, mais ces dommages resteront limités. Là, on est aujourd'hui dans un système où il y a une confluence de problématiques, à la fois le changement climatique, une intervention humaine décomplexée, plus importante. En fait, également l'intervention de populations qui n'ont pas forcément une maîtrise et un savoir des processus naturels dans cette zone. Et l'ensemble de ces événements provoquent chaque année, maintenant, depuis plusieurs décennies, un nombre d'incendies relativement important. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'en alerte alors que c'est une situation qui dure depuis un certain temps, qui est d'ailleurs présente également dans d'autres massifs forestiers dans le monde. Je rappelle, par exemple, que dans un pays d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, que la France connaît bien, on a chaque année 20 à 30 000 hectares de forêts qui disparaissent également du fait d'incendies liés à des pratiques culturales traditionnelles.
On va continuer à en parler, Philippe Grand-Colla. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes notamment spécialiste de l'évolution et de la biodiversité au Muséum d'Histoire Naturelle. Judith Rochefeld, on se retrouve également dans quelques instants. Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne. C'est votre livre publié aux éditions Odile Jacob. En attendant, il est 8h sur France Culture. Je vous souhaite un excellent réveil.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Et justement, on va évoquer ce G7 et plus généralement ce que la communauté internationale peut faire dans le cas de la crise écologique. On a évoqué la situation en Amazonie. Emmanuel Macron est revenu sur ce qui est en train de se dérouler là-bas. Et on en parle avec Philippe Grandcola, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire Institut de Systématique Évolution Biodiversité au Muséum d'Histoire Naturelle. Et puis Judith Rochefeld, professeure de droit privé à l'école de droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez notamment publié « Justice pour le climat » chez Odile Jacob. Judith Rochefeld, votre regard sur le G7, ce qui s'est dit là-bas en matière d'écologie.
Il y aurait beaucoup à dire, mais là, l'un des points qui frappe beaucoup, c'est que jusqu'à présent, on s'était habitué, et ça a été voulu, ça a été ainsi dans toute l'évolution de la construction de la protection du climat, par exemple, c'est qu'on s'était habitué à une dichotomie assez claire entre les traités commerciaux d'un côté et puis ceux de protection de l'environnement de l'autre. Et ce qui est assez frappant actuellement, on verra si ça se concrétise réellement, ce qui est plus nouveau, je dirais, c'est alors qu'on développait les deux en parallèle sur ce que certains appellent un schisme de réalité, sans prendre en compte le fait que...
Un schisme de réalité.
Oui, ça c'est l'expression de Ami Dahan et Stéphane Ayouk qui sont des grands spécialistes de la gouvernance du climat et qui précisément ont démontré en quoi les traités commerciaux se négociaient d'un côté, l'environnement se protégeait de l'autre, sans qu'on fasse de croisement entre les deux, ce qui faisait que le voyage de soja ou de bœuf d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique n'était pas pris en compte.
Le tout était parfaitement contradictoire.
En tout cas, on avait deux réalités différentes avec ce paradoxe.
Ce qui est pas génial quand même.
Voilà, ça ne disons que l'un était marginalisé par rapport à l'autre. Et le fait de dans le cadre de ce G7 de croiser les deux, c'est-à-dire de conditionner encore une fois, nous verrons comment ça se développe dans l'avenir, mais de croiser la signature du Mercosur avec une certaine protection de l'Amazonie, un comportement vis-à-vis du climat, est un croisement qui est intéressant.
Mais est-ce que précisément cette volonté de protéger l'Amazonie ne se heurte pas à un autre principe en droit, parce que le G7 est là aussi pour composer, pour faire respecter le droit. Lorsque Bolsonaro dit que l'Amazonie est brésilienne, et il n'est pas le seul à le dire, ses prédécesseurs en ont dit tout autant, est-ce que là, et il n'y a pas un autre principe qui consiste à s'arroger une souveraineté sur un lieu qui n'est pas le nôtre, Judith Rochefeld?
Il a tout à fait le droit de avancer sa souveraineté, c'est un principe évidemment fondamental, mais précisément au constat de ces blocages, c'est-à-dire du fait que gouverner ensemble, par exemple, le climat n'est pas possible si on n'a pas un intérêt commun et qu'on ne se met pas d'accord sur cet intérêt pour le défendre. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Et le Brésil est le contre-exemple, en fait, actuellement, en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chacune des sociétés nationales, civiles nationales, les organisations non gouvernementales, les citoyens, rappellent leur État, qui sont souverains, à leur responsabilité vis-à-vis des biens communs. C'est ce qui est en train de se produire dans beaucoup d'arènes judiciaires nationalement. Ça se produit dans beaucoup de pays qui sont proches du Brésil. Ça ne veut pas dire que les États obtempèrent, ça ne veut pas dire que les citoyens obtiennent toujours des ordres que l'État se comporte mieux vis-à-vis du climat ou de l'environnement, mais on a une action nationale qui se met en place dans beaucoup de pays pour précisément contrer le fait que internationalement on n'y parvienne pas. Alors le Brésil n'est pas celui où il y a les actions en ce moment. Donc on a d'autres moyens pour le ramener à la table de la protection de l'environnement.
Philippe Grandcola.
Moi, je suis très heureux, en tout cas, que la biodiversité soit finalement sous le projecteur du fait de cette situation, puisque on parle effectivement beaucoup d'environnement dans le monde, on parle beaucoup de la crise du changement climatique, on parle souvent beaucoup moins de la crise de la biodiversité, en fait, qui est intimement liée à la crise du changement climatique. En fait, il faut se rappeler que la stabilité du climat est aussi liée aux effets de rétroaction sur la biodiversité. Le puits de carbone de l'océan, l'effet des puits de carbone biologiques comme les grands massifs forestiers, l'Amazonie, premier système forestier tropical. Ce coup de projecteur est nécessaire. On a souvent l'impression, en fait, que nos sociétés aujourd'hui considèrent la biodiversité comme une valeur marginale, dont on perçoit l'intérêt au plan patrimonial, mais dont on a du mal finalement à penser qu'on ne puisse pas intervenir de manière industrielle, mécanique, brutale, en permanence, alors qu'en réalité on se rend compte avec la crise de l'Amazonie aujourd'hui, on se rend compte, et encore une fois cette crise elle est emblématique de ce qui se passe dans le monde en général, il n'y a pas qu'en Amazonie que ce type de problème intervient, elle est emblématique en ce sens qu'on voit que il y a eu une utilisation de l'Amazonie avec les populations amérindiennes il y a 400 ou 500 ans, qui était importante, dans laquelle il y avait une action sur l'environnement qui n'était pas négligeable, mais elle se faisait avec un tempo, avec des méthodes, avec un nombre de personnes, avec une absence d'industrialisation qui rendait le système viable. Aujourd'hui,
ce que vous voulez dire, c'est que la déforestation, l'utilisation du bois pour le chauffage ou pour la construction, c'est pas une nouveauté. Et si jadis cela avait moins de conséquences, c'est parce que c'était des gestes isolés, Philippe Grand-Collin ?
Tout à fait. Aujourd'hui, on est dans un système où l'action de l'homme est tellement forte et tellement prégnante qu'on ne maîtrise plus la situation. On a sur 5-6 millions de kilomètres carrés, on a chaque année des dizaines de milliers de kilomètres carrés qui perdent cette nature forestière. On a un système qui s'emballe, dans lequel, à l'échelle de quelques décennies seulement, d'ici 2030-2050, on risque d'avoir un système qui ne sera plus forestier, avec des conséquences dramatiques pour la biodiversité, puisque on perdra définitivement des dizaines de milliers d'espèces qui ont mis des millions d'années à évoluer et dont la valeur patrimoniale, dont la valeur de service aussi pour la société, dont la valeur optionnelle pour le futur, qu'on ne connaît pas toujours, sera définitivement perdue. Mais on perdra aussi, par le biais de ces pertes, la stabilité d'un système. Il faut se rappeler malgré tout que même l'État brésilien moderne a intérêt à garder ce système dans un état fonctionnel.
Et expliquez-nous pourquoi, parce que on voit donc cette surface énorme, 5 millions de kilomètres carrés, et on voit 20 000 kilomètres carrés de feux de forêt. Bref, on se dit que même si les images sont terribles, en proportion, cela reste très circonscrit.
Alors ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a déjà presque un quart de la forêt amazonienne qui a disparu et qui est convertie en système de pâturage ou de culture. Compte tenu du taux de déforestation qui varie selon les années, mais qui reste malgré tout relativement élevé.
De quel ordre ?
Il est de l'ordre, de, encore une fois, de 20 000 kilomètres, 20 à 30 000 kilomètres carrés par an. Donc si ce taux restait constant à l'échelle de quelques décennies, on risque d'avoir en fait une perte de surface forestière qui sera suffisamment importante pour qu'au plan écologique, le système tout entier commence à ne plus fonctionner correctement. On le sait, une forêt, ça génère de la vapeur d'eau, ça génère beaucoup d'eau. C'est un puits de carbone. Si on brûle cette forêt, on libère du carbone dans l'atmosphère et surtout, on perd cette capacité à recycler in situ l'eau en question.
Voilà. Mais alors, le problème, c'est qu'en France, on a lutté contre la déforestation. Celle-ci est arrêtée, puisqu'elles ont été, au XVIIIe, au XIXe siècle, elles ont été pillées, les forêts françaises. Ensuite, on a replanté, alors notamment avec des pins Douglas, puisque la plupart des forêts françaises, elles sont aujourd'hui en pins Douglas. Et ça aussi, ça n'est pas neutre écologiquement, Philippe Grand-Collin.
Tout à fait, tout à fait. Les systèmes écologiques, ils ont un certain nombre de valeurs. Il y a une valeur patrimoniale, encore une fois, effectivement, replanter une forêt en pins Douglas, ça fait baisser sa valeur patrimoniale au sens patrimoine de l'humanité. On n'a pas dedans une biodiversité importante. On a des espèces qui ont une valeur industrielle, qui ont une valeur économique, certes, qui en plus ne sont pas forcément dans un état d'équilibre parfait avec le milieu naturel. Quand on plante certaines espèces végétales, si on plante des eucalyptus en Amazonie, si on plante du pin Douglas en France uniquement, on appauvrit les sols, on appauvrit les systèmes, on perd la faune et la flore naturelle. Et surtout, on ne va pas forcément vers des états d'équilibre durable. Voilà. Donc, effectivement, dans le cas de l'Amazonie, à la fois, il y a à la fois un contenu en biodiversité qui est un trésor pour l'humanité, qui est aussi une utilité potentielle pour l'humanité, parce que dans ces milliers d'espèces, il y a des molécules, il y a des solutions que l'on pourrait utiliser en termes de connaissances pour les sociétés humaines, mais il y a également une valeur d'équilibre. Si on déforeste sur un ensemble de sols qui sont enclins à l'érosion, en particulier s'il y a un bouleversement climatique qui se poursuit, évidemment, naturellement, ça sera le cas, on est dans une situation où les systèmes ne vont pas perdurer de toute manière, de manière équilibrée.
Quelle est la part de forêt primaire aujourd'hui en Amazonie? Et il n'est peut-être pas inutile d'ailleurs, Philippe Grand-Colas, de nous rappeler ce qu'est une forêt primaire.
Alors effectivement, la forêt primaire, c'est une métaphore pour dire d'une forêt qu'elle est relativement intouchée. Alors c'est toujours quelque chose de faux, en ce sens que les forêts ont toujours été touchées par l'espèce humaine depuis un certain nombre de dizaines de milliers d'années. Néanmoins, quand elles arrivent à un état d'équilibre relativement important, avec une biodiversité qui est préservée, évidemment, on est dans une situation qui est très satisfaisante pour le maintien des systèmes naturels et pour les intérêts proches et plus lointains de l'espèce humaine. C'était le cas de l'Amazonie il y a encore quelques décennies. Ce n'est plus le cas de la forêt atlantique. Il faut se rappeler qu'au Brésil, il y a un deuxième grand massif forestier le long de la côte atlantique, dont il ne reste aujourd'hui plus que 5% de la surface, et qui a subi de plein fouet une déforestation depuis plus de 400 ans, qui est une sorte de prémisse, de préfiguration de ce qui pourrait arriver à l'Amazonie. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, en Amazonie, il y a ce qu'on pourrait appeler encore un espace important de forêt primaire, sur plus de la moitié de la surface. Évidemment, compte tenu des taux de déforestation, d'utilisation des milieux naturels, des équilibres naturels qui sont eux-mêmes rompus avec une tendance à la perte d'un climat humide, forestier, etc., on peut arriver d'ici quelques décennies à un vortex d'extinction dans lequel, en fait, une espèce de situation de perte d'équilibre dans lequel les systèmes naturels vont de manière irrémédiable vers un dépérissement important.
Et alors, qu'est-ce qui se passerait si on envisageait donc ce dépérissement? Qu'est-ce qu'il y aurait comme conséquence? Donc, vous avez parlé d'eau douce, on sait qu'il y a un système régulateur, il y a la biodiversité. Bref, quels sont les scénarios du pire dans cette perspective-là, Philippe Grand-Colas?
Scénario du pire, bien sûr, c'est d'abord la perte de dizaines de milliers d'espèces. Pour parler clair, en Amazonie aujourd'hui,
Quelles sont ces espèces?
40 000 espèces de plantes, 16 000 espèces d'arbres. Quand vous êtes dans un hectare de forêt en Amazonie, forêt non marécageuse, par exemple, qu'on appelle la forêt de terre ferme en portugais, on se trouve dans un espace forestier où il y a des dizaines d'espèces d'arbres différents, avec des populations relativement clairsemées, un sous-bois dans lequel il y a des centaines d'espèces de plantes, des milliers d'espèces d'insectes, centaines d'espèces de vertébrés. Donc toutes ces espèces, bien sûr, qui interagissent les unes avec les autres, dans le cas d'une déforestation massive, vont disparaître en grande partie.
Alors ça, c'est une vraie spécificité par rapport aux forêts non primaires, car bien souvent, les forêts que l'on découvre, par exemple en France, mais pas uniquement, sont constituées d'un petit nombre d'espèces.
Oui, tout à fait. La forêt primaire abrite par définition un nombre d'espèces beaucoup plus important. Et ces espèces sont interdépendantes. Donc c'est à la fois une grande vertu, puisque ce système a une certaine résilience. Il est capable de retourner à des états d'équilibre relativement naturellement, même si c'est à l'échelle de quelques décennies, voire de quelques siècles, ce qui est un peu long pour le point de vue humain. Mais ça reste un système qui fonctionne. Quand on va vers des systèmes simplifiés, anthropisés, dans lequel l'action humaine a diminué le nombre d'espèces, on va vers des systèmes qui ne restent plus en équilibre de la même manière, qui ne sont pas forcément en équilibre non plus avec le sol ou avec le climat. Dans le cas de l'Amazonie, la grande crainte que l'on peut avoir, c'est qu'on aille vers un paysage qui soit un paysage ouvert, avec un apport énorme de pâturage, de culture, et dans lequel, en fait, ce climat humide que l'on connaît aujourd'hui, avec des variations, bien sûr, l'espace est immense, et au sein de l'Amazonie, il y a des climats relativement contrastés, entre le Piémont andin avec des pluviosités colossales et puis des espaces un peu plus secs où il pleut à peu près 2 mètres d'eau par an, inégalement répartis sur l'année. On a des climats relativement variés. Mais
2 mètres,
oui, ce qui correspond en gros à une fois et demie à deux fois la pluviosité annuelle qu'on a par exemple dans la plupart des régions d'Europe.
Oui, c'est beaucoup. Donc,
c'est beaucoup, mais malgré tout, il faut se rappeler que ces 2 mètres, c'est un peu la limite inférieure pour le maintien d'une forêt tropicale humide. Même 2 mètres d'eau, beaucoup, si c'est inégalement réparti, en fin de saison sèche, on se trouve avec un certain état de sécheresse, hein, ce qui amène d'ailleurs à favoriser les incendies qu'on voit aujourd'hui. Et puis, ces 2 mètres d'eau, en fait, peuvent être inégalement répartis, au point que pendant la saison sèche, s'il n'y a par exemple pas de couvert nuageux, la forêt commence à se dessécher et certaines espèces peuvent être proches de disparaître.
Philippe Grand-Collin, on parle beaucoup donc de forêt amazonienne et de forêt primaire. En Europe, il en reste, je crois, en Pologne, mais c'est pratiquement résiduel.
Tout à fait. Et même en Pologne, malheureusement, en fait, ces forêts primaires sont actuellement en danger puisque leur exploitation commence à être malheureusement organisée. C'est vrai que nous avons effectivement dans nos milieux naturels une manière de gérer en Europe depuis un certain nombre d'années, voire des siècles, qui n'est pas compatible avec le maintien d'une biodiversité riche et équilibrée. Et à ce titre, c'est vrai quelquefois que c'est une situation qui est assez délicate. On ne peut guère se poser en donneur de leçons, hein, en particulier quand on consomme des produits qui sont effectivement générés par l'exploitation de la forêt amazonienne, hein, comme le soja ou le bétail. On ne peut pas se poser en donneur de leçons par rapport à des pays comme le Brésil, par rapport à l'utilisation du milieu naturel. Bon, néanmoins, je pense qu'il y a un vrai consensus dans la communauté scientifique en général, qu'il s'agisse de scientifiques brésiliens, de scientifiques européens ou de tous les pays du monde, pour considérer justement qu'une bonne gestion des milieux naturels, et en particulier en Amazonie, est vraiment un préalable pour le maintien d'un environnement qui est compatible avec l'espèce humaine.
Il y a de plus en plus de mobilisations citoyennes, Judith Rochefeld, pour obtenir une justice à la fois pour le climat, pour reprendre le titre de votre livre, mais aussi pour faire en sorte que les gouvernements obéissent à des règles naturelles ou en tout cas se soucient plus d'écologie. On a vu poindre cela l'année dernière avec beaucoup de procès ou de volonté de faire des procès. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur le respect de ces milieux naturels? L'ancien ministre de l'écologie était sceptique sur le pouvoir véritable de ces procès.
Alors, si vous faites allusion à la phrase « est-ce que c'est dans une arène judiciaire qu'on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre ?» C'est une phrase qui m'a beaucoup marquée.
Parce que c'est de François de Rugy.
Oui, ministre, comme vous l'avez rappelé, de l'écologie. C'est une phrase qui m'a beaucoup marquée parce qu'elle elle contient énormément de paradoxes, effectivement. Tout d'abord, le fait que ce soit des citoyens qui, vis-à-vis de leur État, contestent le contrat social. Pour certains, hein, en Suisse, les contestations ont lieu sur le contrat social, c'est-à-dire l'intérêt général que vous avez défini par rapport au climat ne me convient pas, vous ne le prenez pas assez en compte, et pourtant, c'est notre protection vis-à-vis du climat ou par la stabilité du climat, c'est la contrepartie de votre autorité, de mon respect de votre autorité, par exemple. Donc, on a ce genre d'allégations et
pardon, non, c'est parce qu'en fait il y a Hervé Gardette qui passe derrière vous, mais c'est pas grave, il va se faire discret. Voilà. Judith Rochefeld, vous laissez pas impressionner par Hervé Gardette.
Donc il y a des actions, donc ça contenait cette idée que des élus légitimement au pouvoir se fassent mettre en question par des citoyens. Est-ce que ça marche? Pour l'instant, il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions, déjà, c'est ce qu'il faut dire, hein, de citoyens, d'associations, d'organisations gouvernementales. Est-ce qu'elles aboutissent, par exemple, à un ordre donné à un État de baisser ses émissions de gaz à effet de serre? Ça aboutit aux Pays-Bas, qui n'étaient pas sur la trajectoire de baisse d'émissions que le pays avait annoncé aux accords de Paris et qui a été enjoint de se mettre dans cette bonne trajectoire par ses citoyens, 886 citoyens. Et il est vrai que c'est l'exemple d'un certain succès, alors qu'on pourrait croire que dans d'autres pays, Royaume-Uni par exemple, c'est un échec parce qu'on a rejeté ses demandes. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ces procès, il y a une prise de conscience des populations, ça c'est un premier effet qui n'est pas quantifié par la décision. Et puis il y a aussi en général une reformalisation de la politique de l'État en question, qui parce qu'il y a pression des citoyens, se place dans une autre trajectoire qui était la sienne. Donc il y a des décisions qui sont spectaculaires, comme celle de la Fondation Organda et des 886 citoyens des Pays-Bas. Il y en a d'autres qui ne le paraissent pas, mais qui peuvent entraîner une prise de conscience des populations et le fait que l'État modifie sa politique.
Et cela, donc, c'est à l'échelle d'un État. À l'échelle internationale, en revanche, on n'a pas de précédent, Judith Rochefeld.
Alors, il n'y a pas, ça c'est peut-être ce qu'il faut préciser immédiatement, c'est qu'il n'y a pas de Cour de justice internationale qui est compétente pour l'environnement en général.
Est-ce que ça serait imaginable, puisque vous parlez de biens communs, puisque depuis le début de ce drame en Amazonie, on évoque non pas seulement la question de l'Amazonie, mais la question de la planète tout entière. Est-ce qu'on peut imaginer une procédure qui se déroule à l'échelle, cette fois-ci, du globe ?
C'est imaginable dans, effectivement, philosophiquement ou dans l'idée, ça serait ça suivrait une certaine logique. Hein. Beaucoup de juristes défendent, par exemple, les écocrimes, le fait qu'on ajoute dans les statuts de cour pénale qui existent des crimes contre l'environnement. Mais ça présuppose de passer cette difficulté, de surmonter cette difficulté qu'on a déjà identifiée, c'est-à-dire que les États soient d'accord pour se mettre ensemble dans cette perspective et signer un traité. Or, ce qu'on constate dans la gouvernance du climat, et c'est flagrant, c'est que précisément si les arènes nationales prennent autant d'importance, c'est parce qu'il y a l'accord de Paris qui a affiché certains engagements, mais c'est aussi parce que les arènes nationales, les citoyens ont pris acte qu'au niveau international, ça ne fonctionnait pas suffisamment. Et de fait, on a cette relocalisation du global nationalement. C'est pour ça. Mais du coup, pour répondre à votre question, ça serait logique, mais peu envisageable dans les faits.
Votre point de vue, Philippe Grand-Collard.
Alors effectivement, au niveau international, il y a des instances qui ne sont pas juridiques, mais qui ont eu une importance de médiation par rapport aux sociétés. Notamment, on a tous entendu parler de la signature de la convention dite de Rio sur la biodiversité, qui engage dans les conférences des parties les pays qui ont signé cette convention. Là, il y a une conférence des parties qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh il y a un an. Une autre va se tenir l'année prochaine en Chine à Kunming, et où on pourrait avoir des accords internationaux dans lesquels un certain nombre d'États s'engagent sur des accords qui seraient peut-être similaires aux accords de Paris concernant le climat. Alors c'est extrêmement important que ces discussions puissent avoir lieu, même si on est toujours frustré finalement du retrait des pays a posteriori des accords ou de leur peu d'intérêt finalement pour l'application de ces accords. Mais au moins ça permet, de la même manière que quand il y a eu cette réunion de la plateforme IPBES, la plateforme sur la biodiversité, l'analogue du GIEC en quelque sorte qui s'est tenue à Paris il y a quelques mois, ça permet aux sociétés, aux gouvernants et aux citoyens de prendre conscience que la biodiversité a une valeur, au même titre que le climat, que les deux fonctionnent de pair, qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre et qu'on ne peut pas les traiter comme des valeurs marginales au sein de nos sociétés, de notre monde. Nous n'avons qu'une planète dans laquelle nous devons faire avec la biodiversité et le climat.
Vous avez l'impression que les choses changent à cet égard, Judith Rochefeld, vous qui êtes juriste ?
Depuis quelques années et encore davantage en 2018 et 2019, la multiplication des procès citoyens, même, je le répète, si certains se soldent par des échecs apparents, me semble effectivement faire changer les choses. Après, est-ce qu'on arrivera à faire changer les choses dans les temps qui nous sont impartis ? pour limiter la hausse des degrés en matière climatique, là c'est la vraie question.
Philippe Grand-Collat, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut de systématique évolution biodiversité au Muséum d'histoire naturelle, et Judith Rochefeld, vous restez avec nous. Judith Rochefeld, Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, c'est le livre que vous avez publié chez Odile Jacob.